interview d'un pompier professionnel. Alors, peux-tu me dire en quoi consiste ton travail ?
Alors, mon travail, ben, je suis pompier. Je suis pompier, c'est-à-dire tout ce qui se rattache au terme de pompier, les porter secours, assister les personnes en danger, intervenir sur les différents feux, feux urbains, feux de forêt, surtout ici dans le Midi. Et puis, tout ce qu'on appelle, nous, les opérations diverses, c'est-à-dire le fuite d'eau, le chat qui est sur l'arbre qui n'arrive plus à descendre, le nid de frelons, etc., etc. Quoi. C'est assez étendu.
C'est un travail très varié, quoi.
Ouais, c'est varié, parce que chaque intervention est différente, quoi. Tu ne tomberas jamais sur le même accident, tu ne verras jamais le même feu, tu dois faire face à certaines situations qui ne se ressemble pas, quoi.
D'accord. Et est-ce que tu peux me raconter un souvenir marquant dans ta carrière de pompier ?
Un souvenir marquant ?
Oui, quelque chose qui t'a impressionné ou...
Pour moi, jusqu'à maintenant, ça a été le tremblement de terre à Mexico, qui a eu lieu en 85, auquel j'ai participé en tant que secouriste. Quoi. C'est quand même quelque chose qui marque dans la vie d'un pompier, parce qu'on n'est pas tous les jours à Mexico aider les Mexicains. Quoi. Voilà, j'étais à l'époque, j'étais pas encore professionnel, j'ai effectué mon service militaire au bataillon des marins pompiers de
C'était la condition nécessaire pour partir ?
Ah non, la condition pour partir, il fallait avoir le stage à l'examen de sauvetage à déblaiement, qui est une spécialisation chez les pompiers, comme il en existe beaucoup d'ailleurs, et être secouriste et être titulaire du brevet de réanimation. Voilà, si tu réunissais ces deux conditions, tu avais des chances de partir. Bon, tout le monde n'a pas pu partir, on a été tiré au sort, quoi. Parce que l'effectif est assez grand quand même. Et j'ai eu la chance d'être parmi ceux qui sont partis à Mexico.
D'accord. Et là-bas, comment ça s'est passé ?
Ah, là-bas, c'était impressionnant, quoi. C'est pas...
J'imagine que ça devait être gigantesque.
Moi aussi, avant de partir, tout le monde imaginait à peu près, quoi, parce qu'on avait lu les journaux. On avait écouté la radio, tout ça, donc on se faisait déjà une petite image de Mexico, ce qu'on allait voir. Et en fait, quand on est arrivé, c'était tout autre chose, ça prenait une autre dimension, hein. C'était fou, quoi.
C'était encore plus grand dans la réalité.
Ah ouais, parce que vraiment, on imaginait déjà, je t'ai fait dit, mais voir tous ces immeubles effondrés, les rues qui n'existaient plus, des trous dans la chaussée, des gens qui couraient à droite à gauche.
C'était l'affolement général, d'abord.
Ah ouais. Voilà, faut l'imaginer.
Et en quoi consistait ton travail ?
Nous, sur place, donc on est arrivé, on a été pris en charge par les autorités mexicaines qui nous ont accompagnés à notre hôtel, enfin à notre hôtel, j'appelle ça un hôtel, mais c'était un quartier général, quoi. On logeait dans un hôpital, donc on avait des lits de camp, tout ça. Ensuite, nos chefs sont allés chercher auprès toujours de ces autorités mexicaines le travail que l'on devait effectuer, parce qu'il faut une organisation, qu'on ne peut pas aller à droite à gauche. Et on nous avait confié le déblaiement d'un hôpital qui s'était effondré.
Donc vous avez un secteur bien particulier, bien défini.
Ah, bien précis, ouais. Nous, le bataillon de marins pompiers s'occupait de cet hôpital, je ne me rappelle plus son nom. Mais il s'était effondré et il y avait des... Bon, l'hôpital c'est plein de malades, de personnel. Au moment du tremblement, il était plein, cet hôpital. Enfin, il était plein, je ne sais pas combien de personnes il y avait. Mais il y avait encore des personnes de vivantes sous les décombres. Donc nous, on s'est occupé que de cet hôpital. Ensuite, on était avec l'USS de... Bon, ils se sont occupés de... Ils étaient à l'est de Mexico, ils avaient une clinique ou un immeuble, je ne sais plus. Enfin, eux, ils s'occupaient rien que de...
D'autres choses.
Voilà, chaque groupe avait son secteur d'intervention, sa partie de travail à faire. Voilà, en gros, c'était...
Et votre travail
consistait
en quoi ? Je veux dire, sur place...
Nous, on nous a appelés pour essayer de dégager les survivants, donc... On devait s'y employer.
Déblayer, dégager les victimes.
En fait, ça se passe. Il y a trois phases, si tu veux. Il y a d'abord une phase de recherche, c'est-à-dire il faut essayer de repérer les victimes. Alors pour ça, on a une équipe qui est appelée l'équipe de recherche et localisation, c'est-à-dire les maîtres chiens avec leurs chiens. Donc ce sont les premiers qui ratissent, qui marchent sur les décombres avec les chiens, ils lâchent les chiens, ils flairent, ils essaient de repérer.
Essayer de voir s'il y a des victimes,
voilà.
Ou pas, à quel endroit elles sont.
Quel endroit. Et alors là, c'est assez flagrant, hein. Quand le chien il sent que quelqu'un est vivant, il s'arrête, il ne bouge plus, il gratte avec la patte, il aboie, mais c'est ici, quoi. Le chien il se trompe rarement. Ensuite, bon, une fois que le chien a repéré la victime ou l'endroit où la victime est ensevelie, il arrive une deuxième équipe qui va essayer de confirmer la présence de cette victime. Donc, c'est l'équipe de localisation. Ils arrivent avec un appareil. Un appareil, si tu veux. Bon, je ne vais pas te le décrire parce que c'est pas que c'est complexe, mais enfin, c'est un genre d'écouteur. Et donc, il y a un pompier
qui capte les sons.
Voilà, un écouteur qui capte les sons sous le sol. Alors, en deux mots, je t'explique. Il y a quelqu'un qui lance un appel à la victime. Voilà, pour être une victime, hein, on suppose qu'il y a une victime en dessous, en tapant sur une pierre avec une barre de fer. Et il y a trois autres pompiers avec cet appareil donc, qui sont chargés de recevoir, de capter les sons que peut émettre
la victime.
Avec un casque. Voilà. Et une fois que les chiens sont passés, que l'équipe de localisation a fait son travail à repérer la victime, à ce moment-là, on essaie de la localiser. Sur un papier, on trace un trait. Nous, on est là, la victime est là, il faut creuser comme ça. Et ensuite, il arrive la troisième équipe, l'équipe de déblaiement, donc, qui creuse des galeries, des tunnels jusqu'à la victime. Voilà,
et
gros,
là,
c'est ça le travail.
Le déblaiement en lui-même, comment il se déroule?
Ben, le déblaiement, c'est-à-dire la troisième phase du travail,
oui.
Eh ben, lever les pierres d'abord, enfin, tout ce que tu peux lever avec les mains. Et ensuite, quand tu commences à creuser.
Et si vous rencontrez des obstacles, par exemple?
Alors, je t'ai dit tout à l'heure, on trace un trait. Fait une ligne, quoi. Il faut la suivre cette ligne, c'est-à-dire on va creuser droit avec bon, on a des appareils pour creuser, bon, t'as les pelles, pioches, mais il y a un matériel qui est sophistiqué maintenant avec le laser, tout ça. Donc on creuse droit du point de départ jusqu'à la victime, mais on va tout droit. Donc c'est-à-dire que on va passer à travers tout ce qu'on a rencontré sous les décombres, bon, les pierres, les tables, les frigos, enfin, tout ce que tu peux imaginer, un appartement. Quoi.
Et même à travers des corps ou...
Ah ben ouais, ben c'est arrivé justement, là, une collègue, parce qu'on creusait à peu près un quart d'heure chacun, parce que c'est assez éprouvant, et puis tu manques une heure là-dessous. Donc on creusait un quart d'heure, on sortait, on se reposait, il y en avait un autre qui... Voilà, on tournait comme ça. Et le collègue a dû... En creusant, il est tombé sur un cadavre, un corps.
Il a dû le découper ?
Il a découpé au laser.
C'est horrible.
Alors, il a été marqué, il est remonté, il pleurait, il criait, il voulait rentrer, il voulait... Mais enfin, il a fallu...
Tout. À travers des frigos, à travers des
tout,
tas de...
Tout ce que tu peux rencontrer, tu coupes. De toute façon, le laser, enfin, il n'y a pas grand-chose qui le résiste. Hein. Mais c'est le fait de couper le corps humain, même mort, hein, parce que...
Oui, bien sûr. C'est impressionnant.
Ouais. Enfin, je sais que je ne pourrais pas aimer le faire, mais je ne sais même pas si je l'aurais fait, même il l'a fait. Et donc tu creuses comme ça droit jusqu'à la victime.
Et il y a des chances pour que les victimes, il en reste encore en dessous quand les autorités décident de...
Ah ouais, bien sûr.
Ben, d'arrêter les recherches.
On a eu ce problème au bout du cinquième jour, parce que les autorités mexicaines ont décidé que c'était fini, ils ont décrété qu'il n'y avait plus de survivants.
Au bout de combien de jours ?
Cinq ou six jours, je crois. Alors
cool,
que notre équipe, je t'ai dit la première équipe avec les maîtres chiens, on avait repéré deux vivantes qui étaient ensevelies.
Et comment vous avez fait alors ?
Alors, c'est nos chefs qui ont négocié avec les autorités de Mexico. Ils ont essayé de... ils ont discuté avec un interprète. Parce que d'un côté, tu avais bon, le chef des marins pompiers qui, lui, voulait continuer à creuser parce qu'il savait qu'il y avait deux victimes qu'il fallait dégager qui étaient encore vivantes. Donc, ça vaut le coup, même d'en sauver une.
Oui, bien sûr.
Et de notre côté, tu avais un colonel mexicain de l'armée avec toute une rangée de bulldozers qui nous disait de dégager le chantier, de dégager l'hôpital, de sortir, que les bulldozers allaient finir le...
Pour quelle raison ? Pour les épidémies ?
Voilà, parce qu'au bout d'un certain nombre de jours, l'odeur des cadavres, tout ça, ça dégage des microbes, il y a des risques d'infection, d'épidémies assez grandes. Quoi.
Et finalement, comment ça s'est terminé alors ?
Eh bien, ça s'est terminé qu'au bout de la première discussion, notre chef a pu obtenir un délai de 10 à 12 heures, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 12
heures.
Seulement ? 12 heures. Il nous avait filé 12 heures pour sortir ces deux victimes. Et si au bout des 12 heures, on n'avait pas dégagé les victimes, les bulldozers...
J'allais tout ensevelir.
Entrer en action, déblayer jusqu'au ras de sol. Quoi. Donc, il déblayait les victimes avec. Et donc, on s'est mis au travail, quoi. On a creusé, mais c'était trop long, quoi, parce que les victimes étaient assez loin. Et on n'a pas pu les dégager. Et au bout de ces 12 heures, donc, le colonel de Mexico, là, je ne sais plus de quelle armée il était. Il est revenu, il nous a dit de, bon, maintenant vous évacuez le chantier. Ils évacuent le chantier, les bulldozers, ils vont. Bon, là, à ce moment-là, bon, notre chef, désespéré, parce qu'on y était presque, quoi. Ils oui. étaient à 5-6 mètres, mais un sauvetage de déblaiement, 5-6 mètres à creuser, c'est, ça te représente, je ne sais pas, une dizaine d'heures de travail. Hein.
Tant que ça.
Ah, bon, ouais, c'est vachement long.
Mm-hmm. C'est énorme.
Donc, il n'a pas voulu insister, à contre-cœur, il nous a fait replier le matériel. Tout en sachant qu'il y avait encore ces deux gars là-dessous. Donc on a commencé à replier le matériel, mais vraiment ça faisait peine. Hein, parce que...
Et ce qui fait que les deux personnes ont été ensevelies ?
Non, non. Et une fois qu'on a tout replié, ce même gars, ce colonel, il est revenu, il nous a dit « Allez-y, vous les sortez, les bulldozers, ils travailleront après. » Donc on a encore tout ressorti le matériel, on a tout remis en marche, hein. on a dégagé une première victime, c'était un docteur de l'hôpital. Mmh. Et
il est sorti vivant.
Ah ouais, il était vivant. En fait, on l'a soutenu, quoi, parce que on l'a soutenu au départ. Mais je veux dire, il marchait, il était, mm-hmm. il avait ri. Hein. Si, il était choqué, c'est tout. Et une deuxième qui avait fémur de cassé, mais en bonne santé également.
Mm-hmm. Et ensuite, vous avez tout recouvert.
Ouais, et ensuite, on a rangé le matériel et les bulldozers ont tout.
Et peut-être qu'il en restait encore des victimes.
Ah, je sais pas. Enfin, on en a plus localisé, mais il devait en rester. Hein. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Hein.
C'est dingue de penser ça. Hein.
Ben ouais, ça fait mal au cœur. Mm-hmm. Surtout que bon, tu viens de jusqu'à Mexico, tu pars. En fait, on a travaillé que 5-6 jours. Quoi. C'est... Bon, ça valait le déplacement, hein, mais on aurait pu encore mieux faire. Je suis sûr, on est sorti encore hein, si on était resté plus. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Mm-hmm. Mais l'accueil des Mexicains a été. Pour les Français, ça a vraiment été. Quand on est parti, ils avaient les banderoles, merci.
Ah bon
et merci aux Français. Aussi. Ah ouais, ouais. Mm-hmm. Super. Parce qu'on les sentait vraiment dans le. Enfin, je sais pas s'ils sont comme ça dans la vie de tous les jours, mais là vraiment, les Français, pour les Mexicains, c'était.
Des héros.
Non, peut-être pas jusque-là, mais bon, je vois vis-à-vis des Américains, c'est parce qu'on avait les Américains aussi. Les pompiers américains. Ben, ils n'ont pas ramassé un tel succès que.
Ah, d'accord. Et est-ce que tu as assisté aux inondations de Nîmes ?
Ouais, j'y suis allé avec les pompiers de.
C'était à peu près le même travail ? C'est tout un
différent. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est, moins... bon, c'est une catastrophe également, hein, Nîmes, parce qu'il faut voir les dégâts que l'eau a fait. Mais c'est moins catastrophique que ce qui est eu au Mexique, quand même. Mais.
Quand même,
Ouais, c'était impressionnant aussi quand tu vois 2 mètres d'eau dans une rue.
Et les gens vous ont bien accueilli aussi à Nîmes ?
Ah, c'était pas pareil. Certains oui. Et puis, parce que ce qui se passait, c'est que comme à Mexico, bon, on avait un secteur attribué. Quoi. Mm-hmm. Enfin, là, le gros du travail, c'était qu'il fallait vider l'eau. Quoi. Vider l'eau des appartements, des caves, tout ça. Donc, on nous attribuait un secteur également. On avait une rue à ferme et tout. Et donc on commençait à pomper avec les camions, avec les motopompes, fait avec tout ce qu'on avait. Et bon, une fois que les motopompes étaient mises en route, bon, on traînait dans la rue, quoi. Enfin, les pompes, elles pompaient. Ben, et puis nous, on... Et là, à ce moment-là, il arrivait des personnes d'une autre rue, il n'y avait pas encore de pompiers, qui venaient nous chercher et qui nous disaient, ouais, ma cave elle est inondée, ma salle à manger est inondée, il faut que vous veniez. Alors on leur expliquait qu'on ne pouvait pas, parce qu'on était en train de pomper là.
Vous avez un secteur encore défini et
voilà.
Vous ne pouvez pas...
On ne peut pas se dégager du secteur. Que... Mmh. Et les gens, ils ne le comprenaient pas. Alors ça fait qu'il y en a qui le percevaient bien, quoi. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout apprécié, qui nous traitaient de bon à rien, qu'on faisait ce qu'on voulait, etc.
Oui, d'accord. Qui ne comprenaient pas.
Voilà. Mais... quoi te dire encore ? Mais ça a été moins impressionnant que Mexico. Là, je te dis, Mexico, pour moi, ça a vraiment été...
Le souvenir le plus marquant de ta carrière.
Bon, je sais que c'est triste parce qu'il y a eu des milliers de morts, mais dans la carrière d'un pompier, travailler à Mexico, c'est quand même...
Pour le travail, quoi.
Ah ouais, plein de milieu du travail. Parce que quand tu passes à l'examen, que je te disais, de sauvetage des blé-mains, bon, l'examen, tu as une partie qui est pratique, où on te simule une catastrophe, où tu as des victimes ensevelies dans des caches qu'on a fait nous, quoi, qui sont recouverts juste d'une dalle de béton, et c'est à toi à la dégager, mais la réalité, c'est tout autre. Hein. Quand tu vois ce hôpital où on travaillait, qui était tout écroulé, les tuiles, les murs par terre, tu te...
Et dans ces cas de grandes catastrophes, ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui profitent?
Ouais, ben ça, de partout.
Par exemple, dans les inondations de Nîmes ou même à Mexico,
il y avait la police mexicaine qui veillait 24 heures sur 24 également, qui faisait gaffe aux pilleurs parce que t'avais des gens qui volaient dans les ruines, encore des billes. Et à Nîmes, on a eu le cas de ce boulanger là, mais c'était marqué dans tous les journaux, ça, je sais pas si tu l'as lu. Le boulanger qui, le lendemain de la catastrophe, avait eu un lundi. Le mardi, il vendait sa baguette à 15 francs, la tranche de jambon à 5 francs, on fait un truc abominable. Quoi.
Mmh. Il profitait vraiment de...
Non seulement certains gens avaient tout perdu, là, parce que
en plus, il y avait des gens.
En plus, ils vont chercher à bouffer, voilà, la tranche de jambon à 5 francs, ça c'est vraiment horrible.
Est-ce qu'il y en avait qui volaient, par exemple?
Ah, je sais pas, j'en ai pas
des,
vu.
Des
mais...
voitures ou quoi?
Non, ce qu'il y a eu avec les voitures, c'est qu'il y a eu un parking, enfin, des parkings souterrains complètement inondés, tu t'imagines? C'était sous le sol, donc l'eau s'est engouffrée là-dedans, et il y a eu des centaines de voitures foutues, quoi. Et ces voitures ont été dégagées. Petit à petit, des grues sortaient les voitures, et toutes ces voitures, ben, elles ne marchaient plus, bien sûr. Elles étaient mises sur une grande esplanade. Mm-hmm. Et elles s'entassaient, tu avais toujours des types avec une caisse à outils qui traînaient, qui cherchaient à récupérer ici une roue, un carburateur, un essuie-glace, enfin n'importe quoi, tout ce qui était.
Et est-ce qu'il y en avait qui volaient, par exemple, les vivres qu'on envoyait aux gens de Nîmes?
Les vivres?
Oui,
c'est-à-dire qu'il y a eu des dons à travers toute la France, je me rappelle, des dons qui venaient des quatre coins de l'Hexagone. Et tous ces dons étaient réceptionnés à la mairie de Nîmes. Et en fait, les personnes qui venaient récupérer ces dons, c'était pas que des sinistrés, quoi. Ça, c'est des responsables de la mairie qui étaient chargés de la distribution des dons, qui nous disaient on donne des trucs à des gens qui n'ont pas été touchés par l'eau, qui sont pas sinistrés, qui n'ont pas besoin. Et c'est pour ça, nous, quand on est rentré, on est resté que 3 jours là-bas, puisqu'après, on a eu une relève, une équipe qui est venue nous remplacer. Mon père, il me disait ouais, je vais écrire, je vais leur envoyer un chèque ici. Et moi, je lui dis non, c'est pas la peine que
tu aies. Je pense que c'était pas la peine, quoi.
Non, pour moi, non. Non.
Parce que c'était mal
distribué, c'était au niveau de la distribution et des gens qui profitaient,
Et est-ce qu'il y en avait qui profitaient de la situation pour régler des comptes, par exemple?
Ah ouais, on a eu le dernier jour. Non, juste avant qu'on parte, là, parce qu'il y a eu 7 ou 8 morts à Nîmes. Et le dernier, en fait, le dernier mort qui a été retrouvé, c'est dans un parking souterrain. Mais il n'est pas mort noyé, hein, il est mort.
Ah d'accord.
Il est mort étranglé et après il a été jeté dans le parking qui était plein d'eau.
Mais c'est horrible de penser que.
Ah ben les gens ils profitent de tout, hein, c'était peut-être.
Ouais. Voilà. Quand ils sont voisins.
Parce qu'en plus là-bas il fallait voir le travail comme les policiers, quoi. Parce qu'il fallait qu'ils bloquent Nîmes, il fallait qu'on. Enfin, il était à droite à gauche, il était. Hein. Et il y en a qui ont profité de l'absence de surveillance pour régler quelques différends, quoi. Mm-hmm. Et bim, bim, hein. Parce que tu peux être anglais et tout.
C'est horrible.
Bah ouais.
Et sinon, dans ta carrière de pompier, est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué ou,
qui m'ont marqué? Bah j'ai eu...
Qui t'ont fait peur qui...
J'ai eu 2-3 coups de peur quand même.
Ah bon?
Ouais, c'était sur les... particulier à 86, sur un feu de forêt, là, dans le midi, à Bormes-les-Mimosas, où le feu nous a carrément sauté, au moment où je s'y attendais pas. On a été pas encerclés de flammes. Il y a eu un affolement.
Quelle sensation ça fait?
Ça fait peur. Et tu penses à plein de choses. Hein. Tu penses aux gens que tu ne vas plus revoir. Mm-hmm. C'est vrai. Hein. Tu te dis, je ne la reverrai plus. Et puis le feu il arrive, tu es encerclé, tu t'étouffes, tu as ta lance au bout des mains, mais tu ne sais même pas quoi faire parce qu'il y a des flammes de partout. Ça. Et en fait, il faut que tu attendes que ça passe. Quoi. Mais une fois que c'est passé, que tu revois le ciel bleu, parce que. Là, je me rappelle, c'était 4 heures d'après-midi, mais il y avait tellement de fumée qu'on n'y voyait rien, il faisait nuit, quoi. Mm-hmm. Et une fois que le feu nous a sauté, passé, parti, quoi, parce qu'il nous a complètement échappé, il faut dire ce qu'il y a, ben, tu respires, hein.
Des fois, tu risques ta vie, alors.
Ben là, je t'ai dit, 2-3 fois, ouais, c'est passé près, mais en fait, c'est un métier que, s'il est bien fait, il n'y a aucun risque, quoi. Sauf, bien sûr, imprévu, comme une fois. j'étais toujours en train de. C'était avant de partir au Mexico, là. J'étais sur l'ambulance. Ouais, j'ai effectué mon service militaire en tant qu'appelé au bataillon des marins pompiers de. Et donc, le matin, j'étais sur l'ambulance. C'était 7h du matin, on venait de se lever, on avait passé une nuit tranquille. Enfin, en principe, c'est rare quand tu es sur l'ambulance, on vient dormir la nuit, en principe, tu sors. Sinon. Et là, 7h du matin.
C'est pas le même travail que.
Ah non, non, ça. C'est pas pareil. Il y a plus d'interventions à. C'est normal. Mais tu fais plus de choses intéressantes, je crois. Parce que sur 10 ambulances, mais je te prends le cas, tu vas chercher 8 clochards que tu mets dans l'hôpital. Tu vois. Bon, ça, c'est pas intéressant. Hein,
tu en fait, c'est le même travail, mais amplifié.
Voilà. Amplifié.
Par exemple, au lieu de faire un clochard, t'en fais 10 au lieu de.
Voilà. Si tu veux, t'as moins de sorties, mais les cas, ils sont plus intéressants. T'as plus de. Nous, ce qu'on appelle de belles sorties. Bon, c'est malheureux de parler comme ça, mais t'as plus de beaux accidents.
Et alors, cette fameuse journée là que tu me racontais.
Eh ben ouais, donc c'était 7h le matin, on se levait, juste en allant boire le café. Donc l'ambulance a sonné parce qu'on a un klaxon, un klaxon avec des sonneries. L'ambulance a sonné, on est allé chercher le message parce que les alertes arrivaient sur un ordinateur. Et sur le message, il y avait marqué blessé par arme à feu. Avec l'adresse et tout. Et l'adresse, c'était à 50 mètres de la caserne.
Ah, d'accord.
Donc, on a juste eu à ouvrir la porte de la caserne. En 10 secondes, on était devant l'adresse indiquée. Et on est arrivé, on a encore entendu des coups de feu. C'était un appartement, mais qui donnait sur une rue. Et on entendait des coups de feu par un pas. Il y avait des femmes aux fenêtres de l'immeuble en face qui nous criaient allez-y, rentrez, ils sont en train de se tuer.
Mais tu n'avais pas peur?
Ben ouais, ben moi j'étais pas trop chaud pour rentrer déjà. En plus, nous, en tant que pompiers, on n'a pas rentré, il faut qu'on attende la gendarmerie. Donc le premier truc qu'on a fait, c'est d'appeler la gendarmerie. Et en attendant, on avait pris une petite pince, c'est un genre d'un petit pied de biche, si tu veux. Et on essayait d'enfoncer la porte qui était fermée à clé. Mais sans grande conviction, quoi. Tu vois, parce qu'en attendant ces coups de feu, ça tombe. Et on était en train d'enfoncer la porte, donc. Et derrière cette porte, on a entendu des bruits de pas et puis un petit clic-clic, comme si on rechargeait une arme. En fait, on rechargeait une arme. Alors là, le chef, il avait le pied de biche, il a laissé tomber, il est parti. Et juste au moment où le coup de feu partait, le type, il était de l'autre côté de la porte, il nous a tiré un coup de feu. Donc, je me rappelle, le conducteur, il est rentré en courant à la caserne, de ce qu'il a eu peur. Moi, j'avais une petite trousse de secours en plastique, on l'a mis, je l'ai prise, je suis allé me mettre sous l'ambulance, je ne pouvais plus, j'ai eu peur. Et juste à ce moment-là, il arrive un policier civil de la police judiciaire de. Enfin, ils appellent les cow-boys parce qu'ils sont vraiment fous. Eux, c'est des fous.
C'est des intrépides.
Ah ouais, c'est genre Belmondo, tu vois un peu les films de Belmondo. Alors, le type, il arrive, il avait un pistolet dans la ceinture, il en avait un autre dans le dos. Il est arrivé, on lui a.
Il est équipé.
Ah ouais, il est équipé. Mais un civil, hein, un type, en plus, avec les cheveux longs. On aurait dit tout sauf un gendarme. Et il est arrivé devant la porte parce qu'on lui avait dit oh, ne vous approchez pas et tout, il vient de tirer, il est fou. Il nous a même pas écouté, il s'est présenté devant la porte, donc il y avait déjà un gros trou dans la porte. Il a tiré un coup de pied dans la porte s'est ouverte, il s'est retrouvé en face du type qui avait tiré. Mais cette fois, le type avait la carabine braquée contre sa tempe. Il était prêt à se suicider. Et quand il a vu le gendarme, il a appuyé, il s'est suicidé.
Oh là là, et tu as vu le mec se suicider?
Ah ouais, on était juste à côté. En plus, c'était dans la chambre routine.
Oh, ça
devait
être horrible.
Non, horrible. Mais c'est pas pour ça que le gendarme, il a été. Il a rangé ses deux pistolets, tranquille, il nous a dit
comme
bah voilà.
Comme si de rien n'était.
Ah ouais, bah lui, c'était.
Et quand vous êtes rentré?
C'est pas ça, ouais, c'est qu'après, il a fallu voir. Hein, parce que quand, je t'ai dit tout à l'heure que quand on est arrivé, il y avait eu des coups de feu. Donc il a fallu monter aux étages parce que c'était une maison avec un rez-de-chaussée et un premier étage. Il a fallu monter au premier étage pour voir. Et puis là, dans la cage d'escalier, on a trouvé un type aussi qui avait été buté, qui était mort. Et une femme dans la cuisine.
Et c'est le mec qui s'est suicidé qui a tué tout le monde?
Il a tué le bonhomme, il a tué la femme, son fils devait être la maîtresse du bonhomme. On a supposé ça, vite fait. Et ensuite, il s'est donné la mort quand il a vu la police.
C'était le carnage, quoi.
Ah, complètement. Et d'ailleurs, on est parti, on n'avait pas bu le café, et ce jour-là, on n'a pas bu. Parce que c'était vraiment pas beau. Ouais, ben ça, c'est des trucs qui te marquent quand même. Fait même, ça fait comme c'était en 84-85, ça fait bientôt 5 ans.
Tu l'as pas oublié.
De temps en temps, tu penses encore. Tu te dis,
Et sinon, donc, tu fais des trucs beaucoup plus extraordinaires en ville, quand même, non? Dans des grandes villes, comme ça?
Ah, ben, c'est sûr. Ah, ouais. Bien sûr, toi, je me rappelle, j'y suis resté un an, hein, pour ça, mais j'ai dû faire 4 ou 5 meurtres. En travaillant 2 jours, et en ayant un jour de repos. Donc, tu vois, 5 meurtres,
c'est... Et les accidents routiers, est-ce qu'ils sont...
Les accidents routiers...
Terrifiants, des fois, ou...
Certains, ouais. Certains, tu...
Extraordinaire.
Ah, ouais. Ben, c'est-à-dire,
là, c'est des accidents, des gros accidents avec des camions. Ou...
Mais c'est-à-dire, un accident n'est jamais. Si tu veux, tu vas faire 10 accidents, et ce seront 10 accidents différents. Tu auras 10 situations différentes. Et c'est ça qui est. Parmi ces situations, tu en as un certain nombre de cocasses quand même. Hein, quand tu auras une voiture en équilibre sur un pont avec un blessé dedans, ou une voiture qui brûle avec un type dedans, tu vois. Mais il y en a, c'est vrai, qui marquent. Hein. Alors, il y en a 2 ou 3 qui me sont restés gravés.
Lesquels ?
Un sur l'autoroute. Hein. Un sur l'autoroute.
Qu'est-ce qui s'était passé sur l'autoroute ?
Ben, on est arrivé sur trop tard. Il y avait 3 jeunes dans une voiture qui avaient fait un tonneau. C'était une petite voiture, elle devait être une Austin ou une autre Bianchi, tu vois. Et la voiture avait pris feu juste après, de suite après. Et les 3 jeunes étaient restés à l'intérieur, avaient brûlé dedans. Et c'était en commune de... Donc c'est à peu près une quinzaine de kilomètres de... Donc le temps que tu reçois
la plaque... C'était calciné ?
Carbonisé. Et c'est... Donc on était partis, mais on était arrivé peut-être 10 minutes après. C'était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. Les 3 jeunes, ils étaient carbonisés. Ça c'est vraiment marquant. Et suite, il y avait eu le... Enfin, là, je te dis ce qui me revient en tête, qui m'a marqué. Une fois, mais j'étais pas. Enfin, je travaillais pas là. Je revenais de la mer, à moto. Et je suis tombé sur un accident de circulation. Un camion qui avait sauté l'autoroute et qui était tombé en contrebas dans un champ de vigne. Et le chauffeur avait été décapité. Mais complètement, comment t'as dû.
C'est horrible.
Ah ouais. Ah ça, je crois que tu vois un corps sans tête, tu peux pas... Bon,
j'arrive pas à l'imaginer.
Voilà, tu te l'imagines, quoi.
Non, j'arrive pas à l'imaginer, tellement c'est horrible.
Un corps sans tête, enfin, tu dis au moins, tu vois. Mais le voir, enfin là, moi, j'avais juste vu le corps qui était resté à l'intérieur de la cabine, parce que, en gros, le type...
Et tu avais vu la tête ?
Ouais, la tête, mais beaucoup plus loin, une vingtaine de mètres plus loin. Parce que le type, il roulait avec une vitre ouverte. Et le camion a quitté l'autoroute, il a sauté un contrebas. Et en fait, c'est la cabine qui avait la vitre ouverte.
Il a décapité.
Voilà, il a passé la tête à travers la vitre qui était ouverte. Et quand le camion a fait un tonneau, c'est parce qu'il a fait un tonneau, tout le poids de la cabine lui est tombé sur le cou et l'a décapité.
Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire ?
Ben rien, il y a absolument...
Mais tu as retrouvé la tête ?
Ben la tête, bon après les pompiers sont arrivés. Mais j'avais commencé un peu à la chercher, quoi. Bon, c'est pas que ça me plaît, mais c'est moi.
Ouais. Il ne faut pas affoler les gens qui s'arrêtent.
Voilà, ou... et finalement, c'est un pompier qui l'avait trouvé. Et ben, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Parce qu'un corps sans tête, c'est déjà pas beau, mais une tête sans con, c'est. C'est encore plus horrible. C'est vrai. Voilà, alors c'est. Je te dis. Pourtant, j'en ai fait un paquet d'accidents, mais je te dis, c'est.
Ouais, celui-là, il est du particulièrement.
Et chaque fois que je repasse à cet endroit-là. Oui, je crois pas.
Et sinon, les gens, qu'est-ce qu'ils choisissent comme moyen pour se suicider, par exemple ?
Bon, tu me poses ces questions. Pour se suicider, ben, moi j'ai vu de tout. J'ai vu la...
Non, parce qu'en fait, on n'est pas très bien conscient de ça, quoi. Je veux dire,
moi j'ai fait plusieurs tentatives de suicide. Bon, d'abord, c'était le cas d'une jeune fille amoureuse qui perd son amoureux et qui, pour faire croire à son amoureux qu'elle va se suicider, elle prend 3 cachets. Et voilà, bon, ça c'est la tentative de suicide classique, quoi.
Par barbiturique.
Mais j'ai jamais. Enfin, il y en a qui marchent, mais par barbiturique, j'en ai jamais vu qui se.
Qui vraiment
allait jusqu'à la mort. Sinon, ben, t'as ceux qui se pendent. Ça, j'en ai fait
du tout. Pendu, ça doit être horrible aussi. Hein.
Voilà. Ben ouais. Surtout qu'en principe, quand une personne se pend, elle se pend seule. Et souvent, elle est découverte 2-3 semaines après. Quoi. Et son appartement, parce que c'est une personne âgée, parce que c'est sous. Ensuite,
Qui se jette sur des voitures aussi?
Non, ça par contre, j'en ai jamais vu. Hein. J'ai lu une fois sur le journal que c'est arrivé du côté de Cœur. Mm-hmm. Une femme s'était assise sur l'autoroute.
Tu vas avoir un sacré courage. Hein.
Et sinon, après, t'as... Par contre, j'en avais vu une qui m'avait marqué parce que le type, il avait pris un fer à repasser. Il avait levé le fil électrique du fer à repasser, tu vois. Il avait levé la gaine.
Une gaine.
Il s'était attaché, et puis à l'intérieur, t'as deux fils.
Fils électriques.
Voilà, alors il avait décollé les deux fils, ils avaient tiré. Il en avait attaché un poignet, l'autre bout, il avait attaché à l'autre bras, et il lui restait la prise donc. Et il a branché la prise, une prise de courant, il avait les deux poignets. Et il s'était suicidé, comment ça, électrocuté.
Mais il est mort électrocuté.
Ah ouais.
Et il était comment, brûlé?
Il avait les poignets de brûlé.
Ça fait pas mal foudre alors.
Bon, non, la foudre, si tu veux, comme ça nous l'indique, tu foudroyais. En fait, mais là, dans une prise d'un appartement, que du 200 vols, tu as le temps de te voir quand même.
Hein. Et s'il y en a qui se jettent des immeubles ou quoi?
Ah, ça, par contre, je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais vu des types qui se jettent d'un. Non. Voilà. En gros, voilà, ben c'est ce qui
me. Mais le plus impressionnant pour toi, c'était donc
Mexico,
hein, puisque voilà. C'est quelque chose de grandiose en fait.
Ben, bien sûr.
Tandis que sinon, c'est des petits.
Ensuite, ben, c'est ce qu'on appelle la routine, nous. Hein. Mm. Je t'ai dit, tu as des interventions qui te marquent plus que d'autres, que tu te remémores de ton interrogatoire ou bien que. Ou que tu en discutes avec ceux qui ont fait l'intervention avec toi, tu vois. Tu te rappelles l'accident à tel endroit, on avait fait ci, on avait fait ça. Bon, je sais que c'est un peu dégueulasse d'en parler, mais pour nous.
Pour vous, c'est surtout une question du travail,
voilà.
C'est exactement.
Parce qu'après, de suite après un accident, on discute toujours, on dit on aurait dû faire ça plutôt que ça pour en sortir. En fait, on se remet en question.
Mm-hmm. Bon. Et qu'est-ce que tu penses de. Du tremblement de terre en URSS.
L'Arménie ?
Oui.
J'ai juste vu les images à la télé, là.
Ça devait être. Est-ce qu'il y a des amis à toi qui sont partis là-bas ?
Ouais. Ben, est retourné. Il y a l'URSS de qui est parti aussi. Moi, j'en connais un ou deux.
Mais ça devait être
plus grand
que Mexico.
Voilà. Ouais. Parce que Mexico, si tu veux, c'était centralisé au centre-ville, surtout. Hein. Il n'y avait que le centre-ville qui avait vraiment morflé. Alors qu'en Arménie, tu as vu, c'était 3-4 villes différentes, c'était vachement plus étendu. Donc. En vrai, c'est sûr, ils ont laissé des survivants dessous.
Ah ouais, c'est obligé, quoi.
Ah, je suis sûr. Mm-hmm. Je suis sûr.
D'ailleurs, c'est horrible de penser qu'il y a encore des gens qui.
Je suis sûr qu'ils en ont laissé parce que c'était.
Comme la petite fille à Mexico, là.
Non, c'était pas à Mexico, c'était la petite fille qui est morte.
Oui.
C'était en Colombie, le fleuve de Boule.
Ouais. Mm-hmm.
Comme ça, ma foi, moi, ça.
C'est vraiment émouvant de voir ça à la télé. Hein.
Ouais, mais je comprends pas qu'avec.
Pas
tous les moyens, parce qu'on voyait vraiment que les gens autour, ils avaient aucun moyen, mais ils étaient bien une dizaine. T'avais le type qui filmait, on voyait trois ou quatre types qui essayaient de la soutenir et tout. Ouais, je sais pas, avec tant de bonhommes, je suis sûr que.
Qu'ils auraient pu la soutenir.
Ouais, mais ils se sont mal organisés.
Ah
ouais, ils se sont mal organisés. Parce que bon, elle était prise dans l'eau, je suis sûr que tu plonges à 4 ou 5 types, hein, semble, surtout c'était pas profond, hein. T'as vu, elle avait de l'eau. Mm-hmm. Mais tu peux soulever la pierre qui coince la jambe, donc, je suis sûr que tu peux y arriver. Hein. Mm-hmm. En fait, ils se sont mal organisés, ils se sont pas entendus, puis voilà. Puis, je sais pas, t'as pas montré des images à la télé comme ça.
Ouais, c'est sûr. C'est un peu.
Moi, je suis sûr que le journaliste, il s'est fait une fric monstre avec.
C'était
un scoop, ça. Hein.
Oui, c'est sûr.
Voir une minute qui meurt.
C'est vraiment profiter aussi d'une autre façon de la détresse des gens. Quoi.
Voilà. Moi, je suis sûr que le journaliste, il s'est fait une fortune avec ce truc. Mm-hmm. Parce que c'est passé à toutes les chaînes du monde, ça.
Oui, bien sûr.
Il a dû ramasser un fric abominable et la pauvre petite, elle a prié et tout. Mm-hmm. Mais je ne comprends pas ça. Mais tu peux filmer, c'est ton boulot, comme nous, c'est notre boulot d'aller sortir des types de voitures. Mais...
T'as profité du témoignage des gens, surtout de la douleur des gens en plus. Mmh. Bon, je te remercie, j'ai appris beaucoup de choses durant cette interview. Merci et à bientôt. Au revoir.
Bah, ça a été un plaisir de te parler de ce que je faisais, puis j'espère que je reverrai.
D'accord, au revoir. Allez.